Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'actualité en cette rentrée pour les chrétiens est tellement envahie par le drame des affaires de pédophilie dans l'église et par ses conséquences que l'on finirait presque par oublier que l'actualité ne faiblit pas. Difficile en cette rentrée de faire le tri et de choisir des sujets. Quatre ont surtout retenu notre attention: la crise en Syrie, la menace d'une nouvelle tragédie comme à Alep, la condamnation par l'Europe des géants du web à distribuer une part de leurs profits records à la presse, la rentrée des classes et les félicitations presque unanimes du professeur Blanquer et la démission de Nicolas Hulot, symbole de la lutte écologique, un acte fort, prophétique, disent certains. Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec certains de nos chroniqueurs, invités choc, pour commenter l'actualité du mois. Voilà, on espère que l'émission aura autant de succès que l'année dernière, si ce n'est plus. Autour du plateau, honneur aux dames, Anne de la Doucette, coordinatrice de la formation Passeur d'Hommes. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, formation, comment vous résumeriez en une phrase, Passeur d'Hommes, formation?
C'est une formation à l'anthropologie, à la doctrine sociale de l'Église, à l'engagement dans la cité, ou comment être un homme aujourd'hui dans la société, ou une femme dans la société, être bien dans ses baskets.
Bruno Cyr, ancien président de l'Université Toulousain-Capitole, bonjour.
Bonjour.
Et Tanguy-Marie Pouliquin, prêtre de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Les vacances ont-elles été bonnes?
Les vacances ont été au loin, aux États-Unis.
Allez, faites-nous rêver, Tanguy-Marie Pouliquin. À quoi ressemblent les vacances d'un religieux?
Un religieux, c'est-à-dire d'abord une mission pendant une semaine à Lourdes. Après, on prend ses baskets, on va aux États-Unis. On apprend aux jeunes à marcher dans le désert. À la fin, hop, on fonce à San Francisco pour visiter les sièges sociaux de la Silicon Valley. Et on finit l'été à Open Heaven, le grand rassemblement des jeunes de 18-30 ans des Béatitudes. Une animation incroyable et une louange magnifique. Le Seigneur est honoré en ce temps de turbulence.
Voilà, donc beaucoup de vacances et de vrais repos. J'ai pu entendre, si vous avez peut-être dormi dans l'avion quand même. On va commencer par la Syrie. Alors, la Syrie. Donc, le 17 septembre dernier a été signé un accord turco-russe sur une zone démilitarisée autour de Idlib. Idlib, c'est donc une ville, mais aussi une province en Syrie, au nord de la Syrie. L'enjeu, c'est qu'il y a encore là-bas beaucoup donc, de djihadistes, disent certains. Voilà, chacun mettra les mots qu'il souhaite. Mais en tout cas, deux combattants qui ne sont pas favorables au régime syrien. Et se pose la question de l'intervention donc, du régime syrien là-bas. On craint donc un même drame qu'à Alep. La Russie et la Turquie ont trouvé un accord, on le commentera, qui prévoit donc la création d'une zone démilitarisée d'ici le 15 octobre et que tous les insurgés, en tout cas les armes lourdes des insurgés, soient neutralisées. Charge donc à la Turquie, ils ont commencé à envoyer des troupes, de faire le ménage parmi les djihadistes, de les mettre au pas et de faire en sorte que cet accord soit respecté. Bruno Cyr, puisque vous êtes là surtout pour commenter l'actualité internationale, quelle serait votre première réaction?
Alors j'ai un sentiment assez partagé moi sur cette affaire, parce que je pense qu'on se prépare à un drame humain, et ça m'effraie, et je pense que ça effraie beaucoup de monde, parce que je n'arrive pas à croire, j'espère, mais je n'arrive pas à croire que ce laps de temps très court, le 15 octobre c'est quand même demain, on puisse démilitariser cette zone sans verser beaucoup de sang. Donc,
plusieurs dizaines de milliers de djihadistes, dit-on.
Voilà, et donc les Turcs ont la mission de le faire, ça c'est plutôt une bonne nouvelle que ça soit eux plutôt que les Syriens. Mais je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent. Et s'ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qui va se passer? Les Syriens vont faire le ménage à leur façon, comme ils l'ont fait ailleurs. Donc pour moi, c'est effrayant. C'est un drame pour beaucoup de monde qu'on s'apprête encore une fois à regarder.
Qu'est-ce qui se joue derrière cet accord, peut-être au-delà du drame humain qui, évidemment...
Qu'est-ce qui se joue derrière cela?
3 millions d'habitants dans cette province.
Non, mais ce qui se joue, c'est que les Russes veulent absolument contrôler cette zone, pacifier cette zone, et ils le font à leur façon, en ayant depuis un moment déjà, un grand moment, choisi leur camp, hein, qui est celui de Assad, et c'est devenu la zone d'influence des Russes. C'est-à-dire que tout d'un coup, la Russie, qui était quand même en perte de vitesse pendant au moins 2 ou 3 décennies, est en train de reconquérir un statut international considérable. Et je crois que là, ils sont en train de dire, ben, notre zone d'influence, c'est peut-être plus l'Europe de l'Est, mais c'est le Sud, c'est vers le Sud, et on contrôle ça. Et moi, qu'est-ce que je vois derrière ça,
ça vous inquiète, c'est ça? C'est l'objet de votre inquiétude, parce qu'en face, d'autres vous rétorqueraient que ce sont quand même globalement des djihadistes, en tout cas.
Oui,
il y a un groupe déjà lié à Al-Qaïda qui a répondu qu'il ne déposerait pas les armes.
Je suis d'accord, il y a un vrai problème.
Éternelle question.
Il y a un vrai problème, mais qui va se solder par un drame humain. Mais il y a un vrai problème avec les djihadistes qui, il est vrai, sont quand même des gens qui ne sont absolument pas fréquentables. Ça, c'est sûr, il n'y a qu'à voir tous les dégâts et toutes les façons qu'ils ont d'aborder les problèmes. Qui sème le vent, récolte la tempête. C'est vrai qu'on est dans une escalade, comme on en a connu à travers l'histoire régulièrement, de la violence pour régler les problèmes, qui, moi, évidemment, m'effraie, mais peut-on les éviter? Je pense que les Russes veulent avoir une zone d'influence, sont en train de l'avoir, ça c'est le point de vue géopolitique. Et moi, je suis un peu désespéré de voir une situation, c'est celle de l'Europe. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui dans le monde? Clairement, les Américains sont en train de se désengager d'un certain nombre de territoires, notamment celui-là, laissent la place aux Russes. Les Américains se reconcentrent sur leur zone d'influence traditionnelle, c'est-à-dire l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et sans parler évidemment du Canada au nord, mais bon, sur le continent américain. Les Chinois sont en train aussi d'avoir une zone d'influence qui est en train de s'élargir, et y compris jusqu'à l'Afrique. Et l'Europe là-dedans, l'Europe disparaît. Encore une grande puissance? Moi, je dis non, c'est fini, on a laissé la place aux Russes. On n'est pas capable de faire respecter, y compris dans notre zone d'influence traditionnelle qui était... une grande partie de l'Afrique, on est de moins en moins présent. On est en train de laisser la place soit aux Américains depuis longtemps et soit maintenant aux Chinois. Donc voilà, il y a une recomposition internationale. Et ce que je vois surtout, et c'est là où ça m'inquiète...
Allez-y vite, parce que je vais quand même donner
un peu la parole. Oui, c'est que cette recomposition internationale se fait contre la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuls qui défendent le point de vue démocratique, et moi je suis démocrate, ce sont les Américains, mais on voit qu'ils se retirent. Et ce sont des pays non démocratiques, la Russie et la Chine, qui sont en train de contrôler le monde. Donc...
Anne de la Douce, c'est une réaction. Essayez de faire un peu plus court les uns les autres.
Alors
on est temps de se passer la balle.
Le premier souci des États-Unis depuis le début, c'était quand même de mettre à pied, supprimer l'EI. Ils ne voulaient plus de djihadistes. Ils soutenaient au début les rebelles. Et puis après, le Forum international de Vienne en 2016, ils ont dit, puisque Poutine dit qu'il sera pour la mise en place d'un gouvernement provisoire de coalition où on pourra peut-être tous récupérer un peu nos billes, on se retire. On a encore des petits 2000 hommes sur le terrain. Mais pour ces questions militaires, on va faire un ou deux petits coups, comme pour les gaz chimiques, pour montrer qu'on est plus fort qu'Obama et qu'on agit un petit peu. Mais en fait, les Russes étaient prévenus, avaient enlevé leurs armes et du coup, rien n'a été touché. Donc en fait, les États-Unis laissent les Russes, les Turcs et les Kurdes tout nettoyer. Et après, ils se disent, on va régler le problème. Ils ont bien compris quand même.
Ça, c'est l'analyse, mais quelle est votre réaction
vis-à-vis de ça? Moi, je suis peut-être aussi démocrate, mais je crois que les djihadistes, il faut malheureusement les supprimer. La France a envoyé des snipers pour les tuer. Alors, il faut faire ce qu'on veut. Ils ont quand même mis à feu et à sang deux pays. Il y a des milliers de déportés, il y a des milliers de morts, Et je crains malheureusement que l'Europe ait semé, récolte ce qu'elle a semé. Elle a voulu défendre des droits en Syrie et en Libye. On voit ce que c'est le chaos partout. Alors je crois qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on veut la mort des tyrans, mais ce qu'on met derrière, c'est encore pire. La démocratie est démocratie, bon, je suis désolée.
Tanguy-Marie Pouliquen, voilà, c'est un peu, on va dire, c'est pas une manière de déprécier vos interventions, hein, mais c'est sûr que sur le conflit syrien, il y a ce différent de fond. Est-ce que vous
mais c'est vrai que la Russie,
un autre commentaire ?
C'est vrai que la Russie, depuis 2015, à partir du moment où elle est rentrée dans le jeu, maintenant, elle est maître du jeu. Elle a complètement, on s'est fait tous, ils sont tous fait avoir, quoi. Elle est complètement maître du jeu, sachant quels sont les intérêts de la Turquie, de l'Iran, des sunnites, des chiites, et elle joue l'Israël, et elle joue le centre, et elle joue avec les cartes.
Alors, il y a un acteur de l'ombre aussi dans cet accord, hein, derrière, c'est l'Iran, mais peut-être qu'on, Tanguy-Marie Pouliquen, en parlera.
Alors moi, je pense qu'il y a la variable religieuse qui doit être prise en compte dans l'analyse de la géopolitique. Il faut faire de la géopolitique aussi d'un point de vue religieux. Cette région d'Idlib, elle est juste à côté de la zone de concentration religieuse chrétienne orthodoxe de Syrie. Hein, toute la zone, Latakié, au sud de Latakié, c'est quand même pratiquement 10% des Syriens qui sont de confession orthodoxe. Et à ce titre-là, et positivement, même si en lançant le vent, on crée la tempête, il y a une incidence, une protection de fait qui se fait pour les chrétiens dans cette région. Et cette protection, là, elle est heureuse. Elle va assurer une certaine dimension plurielle de la dimension religieuse en Syrie, pour autant que le contrat politique s'opère entre les différentes factions. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier que Idlib, c'est plutôt des rebelles, 60 000 rebelles, une forte majorité issue des frères musulmans et des djihadistes issus du front al-Nostra, c'est-à-dire des gens qui vont attaquer et qui vont éliminer les autres religions dans la région. S'opposer à eux, c'est aussi défendre une identité chrétienne.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous mettrait tous d'accord ? C'était l'objet de l'intervention récente d'Emmanuel Macron, donc à la tribune de l'ONU, qu'on a mis en regard de celle de Donald Trump. Ça donne l'impression un peu de la mort du multilatéralisme. Voilà, cette manière qu'on aurait essayé d'avoir, d'essayer de régler les problèmes en commun. J'ai noté, j'avoue que c'est la première fois que je le découvrais, pourtant je suis quand même la presse, l'actuel émissaire de l'ONU pour le conflit en Syrie, un certain Staffan de Mistura, qui, en dépit de ses nombreuses intentions de paix ou de négociations collectives, ne récolte évidemment, ou presque, que des fours, comme on dit. Est-ce que c'est pas aussi ce à quoi on assiste et ce qui peut désoler Bruno Sierre?
Ouais, je crois que c'est quand même un autre débat. Le multilatéralisme, c'est surtout dans l'organisation du commerce mondial et trouver des accords régionaux, etc. Là, on est plutôt sur de la géopolitique, de contrôle de territoire, et je crois qu'on est en train de redessiner une carte avec des grandes puissances qui prennent le contrôle d'autres régions pour les pacifier, les contrôler et avoir la paix aux frontières, parce que c'est vrai que les Russes sont quand même très concernés, mais l'Europe aussi, c'est quand même à leur porte. Donc, je crois que c'est ça qui est en train de se dessiner avec la montée en puissance de la Chine. Moi, ce que je dis simplement, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est vrai qu'il faut faire le ménage parce que les djihadistes sont quand même des gens extrêmement dangereux, y compris pour nos amis catholiques et orthodoxes, etc. Ils ont montré ce qu'ils savaient faire, donc il faut absolument les arrêter de faire ça. Mais on va quand même avoir un drame humain, et ça ne peut réjouir personne. Et je pense que dans cette chose, ce qui est grave, c'est la montée en puissance des dictatures. C'est-à-dire que pour moi, la Chine est une dictature, la Russie est une dictature, et donc ils n'ont aucun retenu pour soutenir des dictateurs. On le voit avec Assad, qui est quand même pas vraiment un démocrate.
Donc, et la Turquie devient une dictature.
Et la Turquie est une dictature. Donc c'est ça qui m'inquiète, parce qu'à long terme, c'est quand même les dictatures. On voit ce que ça a donné un peu partout.
Mais est-ce que tu ne crois pas que la Syrie est un État justement tampon ? Pardon. Est-ce que tu ne crois pas justement que la Syrie est un État tampon et que quand même et les États-Unis et bon là la Russie, les Occidents sont quand même les yeux rivés dessus, parce que si ça tombe ou si ça reste avec l'Iran, la Turquie, tu auras tout cet côté chiite d'un côté, les sunnites de l'autre, les sunnites ont peur. Est-ce que, de toute façon, Dans, depuis le début, ce conflit, la Syrie n'existe pas vraiment en tant que pays, mais en tant que temporisateur, un peu comme l'a été la Corée du Nord, un peu comme le Vietnam.
La Turquie. Oui. Mais c'est vrai qu'on installe des dictateurs. Alors, tu disais tout à l'heure qu'en Libye, effectivement, on a chassé un dictateur parce que nos grands principes démocratiques, mais finalement, ça a été pire qu'avant. Donc, on a peut-être eu tort de le chasser.
On ne prévoit pas. Oui, on ne prévoit pas.
Je crois qu'on est en train de faire l'expérience, le deuil au début de ce 21e siècle, de la démocratie comme modèle général. Parce que ce qui a marqué le 20e siècle, c'est que je pense que la plupart des pays comme les nôtres ont cru qu'ils avaient trouvé la formule miracle pour que chacun s'épanouisse, etc., à travers la démocratie. Et là, on est en train de réaliser que la démocratie est quand même en péril dans le monde, est en recul dans le monde. Et que ce sont des dictatures qui sont en train de s'installer un peu partout, et avec notre bénédiction, parce qu'on est bien content d'avoir Erdogan avec un pouvoir fort et qui élimine ses opposants sans état d'âme, d'avoir un Assad qui fait la même chose à côté, etc. Demain, on en remettra un en Libye s'il faut, ou ailleurs en Afrique. Mais est-ce qu'on peut vraiment se contenter de ça? Moi, je trouve que c'est une régression pour...
Alors, puisque la variable iranienne a été évoquée, hein, je pense que...
Il faut peut-être expliquer pourquoi l'Iran, pourquoi on en parle dans ce conflit, parce qu'il y a un certain nombre de combattants sur le terrain qui sont en fait des chiites et qui sont soutenus par l'Iran. Voilà,
donc l'Iran, avec la Russie, vient épauler les alaouites qui sont la minorité au pouvoir, je dirais, et rattachée de facto indirectement à la religion chiite. Donc ça crée une sorte de continuum territorial entre le Kurdistan iranien, le Kurdistan, le nord, en tout cas le nord de l'Irak, et puis toute la partie syrienne. Là, il y a une continuité territoriale d'influence dominante, en tout cas chiite, et qui va permettre aussi un accès territorial de l'Iran plus facile à la Méditerranée. Donc il y a un enjeu.
Ça qui serait la peur, d'ailleurs.
Oui, et ce qui après est une rampe de lancement pour. Alors que les Russes soient dans le jeu, moi je trouve ça équilibre les rapports de force. Au moins d'un point de vue multilatéraliste, interne.
Voilà, à propos de ce conflit, on aurait pu aussi parler de cet avion russe qui a été abattu donc par les Syriens. C'était, si je ne me trompe pas, fin août, début septembre également. Donc il y a eu une escalade entre Israël et oui. Moscou. Mais bon, enfin, voilà, ils ont su quelque part raison garder. Et la question derrière, c'est que s'installe, en tout cas, c'est l'accusation d'Israël, s'installe de plus en plus en territoire syrien, donc des forces iraniennes et entre autres des positions du Hezbollah qui sont défavorables à Israël. Alors, deuxième sujet international, c'est donc cet accord, ou plutôt cette défaite, donc des géants du web. Le 12 septembre dernier, donc, le Parlement européen a voté donc en session à Strasbourg, à une écrasante, pas une écrasante majorité, mais une certaine majorité, donc une obligation des géants du web de payer, on va dire, de payer des droits à la presse. C'est-à-dire que tout simplement, quand vous faites une recherche sur Google autour d'un mot-clé, par exemple la Syrie, bah, ça vous renvoie donc à un certain nombre d'articles de presse. Et vous cliquez après sur les différents journaux, mais entre-temps, c'est Google qui s'est servi des droits de, comment dire, des publicités. Alors c'est salué comme une victoire écrasante pour la culture européenne et la démocratie. Ça, c'était donc le principal lobby en faveur des industries culturelles à Bruxelles. Ça a été salué aussi par Emmanuel Macron, une grande avancée pour l'Europe. On va dire que l'opinion publique a plutôt salué ou trouvé ça formidable. Vous, je ne sais pas quelle a été votre réaction. Là, pour le coup, on a l'impression que l'Europe fait son... Vu de très loin, l'Europe fait un peu son travail, à la différence de d'autres. Bruno Cyr.
Absolument. L'Europe fait son travail et c'est une grande victoire. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une victoire indispensable. Et on a failli rater ça parce qu'il y a déjà eu un projet de loi qui était passé au mois de juillet, et qui avait été retoqué par une majorité de parlementaires parce qu'il y avait eu une pression énorme des GAFA. Hein, les GAFA, ce sont les grandes industries.
Google, Amazon,
lunettes,
Facebook et Apple.
Et Microsoft, oui. Donc, en général, on rajoute un M. D'ailleurs, c'est les GAFAM pour Microsoft. Mais bon, peu importe, ils sont en fait une quinzaine à dominer le marché. Pourquoi c'est important, pour la presse en particulier? Et puis je dirai un mot ensuite sur la condamnation de Google aussi, qui est un peu dans la même ligne. C'est important pour la presse parce que ces moteurs de recherche, ces industriels du net, du web, qu'est-ce qu'ils font en réalité ? Ils référencent un certain nombre de données, de documents, et ils les ordonnent pour que les gens qui viennent... Et comme ils ont une portée mondiale et une diffusion qui est beaucoup plus facilitée que de faire de la presse traditionnelle, ils captent les ressources publicitaires.
86% et donc, voilà. Des bénéfices de Google sont générés par la publicité.
Donc ils achètent, ils sont en train d'assécher, de siphonner ce qui permettait la presse de faillite. Or, la presse est-elle utile ? Ben, oui. Est de plus en plus utile. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est complètement envahi par ce qu'on appelle des fake news, c'est-à-dire de mauvaises informations, de fausses informations. C'est extrêmement difficile de faire le tri. On a besoin de professionnels sérieux, fiables, qui recoupent l'information et qui le font comme un métier pour qu'on sache où sont les sources fiables. Si on tue la presse, eh bien, moi, je suis d'accord avec ceux qui disent on prend le risque de tuer la démocratie. Parce qu'on va être demain enfermé par ces fausses nouvelles. Donc, il faut absolument que la presse vive. Et puisque les autres siphonnent les ressources d'un côté, c'est-à-dire du côté de la publicité, il faut absolument qu'ils acceptent de redonner une partie à ceux qui produisent du contenu avec des professionnels qui sont payés. Et ça représente un coût. Et il faut absolument qu'il y ait un financement qui aille vers eux.
En tout cas, indispensable. Les GAFA ne sont pas faits de publicité, puisqu'ils ont parlé de censure généralisée. Non. Carrément, j'ai lu ça. Tanguy-Marie Pouliquen, allez.
Alors moi, je confirme tout à fait l'impact, l'enjeu démocratique de la réflexion. Si on la reprend de l'autre côté de la planète à partir de la Chine, non pas le GAFAM, mais le BATX, hein, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui est le pendant du GAFAM américain, toutes les données sont en accès libre de l'État, avec cette logique de notification sociale, cette logique de contrôle. Et l'enjeu démocratique, c'est le contrôle des libertés publiques. C'est-à-dire que maintenant...
Vous qui y allez de temps en temps, est-ce que vous avez une illustration ?
J'y vais tous les ans, depuis tous les ans. Par exemple, vous traversez dorénavant dans certaines zones, parce que certaines zones sont encore à l'essai, vous traversez hors du passage clouté, s'affiche au milieu du carrefour sur un écran géant. Emmanuel Pellat vient de sortir des clous, on lui enlève 5 points sur sa fiche, et puis après l'ensemble des points cumulés dira ben, les enfants d'Emmanuel Pellat ils pourront pas aller à l'école, ils auront voilà, la logique est en cours d'expérimentation en Chine. Alors vous voyez, une société de contrôle...
On se plaint que ça soit Big Brother chez nous, mais on en est loin par rapport
oui,
à...
mais c'est-à-dire si on a peur de dire ce qu'on pense et qu'on n'a pas la caisse de résonance pour dire ce qu'on pense, à ce moment-là, on finit par entrer dans un mimétisme social et survivre et se satisfaire un petit peu comme les 1 milliard cadres de Chinois, c'est-à-dire d'une société de consommation de biens matériels et de services aux dépens d'une créativité qui vient d'une pensée, d'une opposition politique, d'une envie de créer du neuf dans un vivre ensemble qui ne vient pas de haut en bas, mais qui viendrait de bas en haut, c'est-à-dire des aspirations de la société civile.
Anne de la Doucette, c'est pas effrayant de voir quand même que les GAFA ont le toupet de parler de censure, parce qu'en fait ils se font les chantres de l'internet libre, mais quand on voit les enjeux qu'il y a derrière, et puis les profits, hein, je citerai juste peut-être un chiffre.
Les profits sont effrayants.
Les GAFA, c'est le PIB du Danemark, je crois, et 33% de croissance plus élevé que la Chine. Bref, c'est des sommes absolument astronomiques.
Si, c'est assez étonnant, mais comme ils sont en toute puissance, ils ne pensent que rien ne peut les arrêter, ils profitent des lois. Jusqu'à présent, on a vu que avant de voter ce texte, on avait l'opposition de l'Irlande, de Luxembourg, de tous ces pays où Parquet les avait pu profiter des systèmes fiscaux intéressants, ou l'Allemagne qui hésitait parce que s'est dit je vais avoir des conséquences, moi j'exporte, on va me faire des barrages économiques ou commerciaux. Donc c'est vrai qu'ils ont une puissance très forte. Ils ont menacé des députés, ils sont en toute puissance, ces GAFA. C'est pas pour rien que le Danemark a mis, je crois,
un ambassadeur.
Un ambassadeur auprès d'eux. Donc, ils se prennent. C'est comme un État, ils sont sur la place internationale.
Et ils leur donnent des valises diplomatiques, ce plein.
Oui, et vous savez, aujourd'hui, l'argent, c'est quand même ce qui donne le pouvoir. Donc, ça facilite un peu les choses.
Voilà, donc condamnation par Bruxelles. Est-ce que l'autre a encore une réaction?
J'ai encore une réaction. Heureusement, Google vient de se faire condamner, là, à deux reprises.
Allez-y, alors.
Je ne sais pas si vous avez vu ça au début.
Oui, j'ai vu,
4
je vous laisse
milliards,
résumer, du coup.
300 millions pour abus de position dominante. Et parce que son système d'exploitation
Android
qui est sur 80% des téléphones, effectivement, ils font ce qu'ils veulent avec. Donc moi, je trouve que l'Europe, là, est utile. Et je dirais même indispensable, parce que des pays seuls n'arriveront pas à faire ça. Il faut absolument des autorités de régulation qui soient capables de leur dire stop, non, et si vous enfreignez les règles que nous avons édictées en matière de concurrence, eh bien, ça va vous coûter très cher. S'il n'y avait qu'une raison, et bien sûr, il y en a quantité d'autres, de voter pour l'Europe, il faudrait au moins prendre celle-là. Parce que sans l'Europe-là, on est désarmé, complètement désarmé face à ces gens-là. Et c'est très rassurant de voir que l'Europe est capable, par des autorités de régulation des marchés, parce que je rappelle que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui n'ont pas trop réfléchi aux problèmes économiques, un marché, c'est tout sauf la loi de la jungle. Ça n'est absolument pas la loi de la jungle. Un marché, c'est un construit social qui a besoin d'une régulation. Sinon, si on ne régule pas, c'est la loi des plus forts. Et la loi des plus forts, c'est le monopole. La jungle, c'est le monopole. C'est pas le marché.
Pour illustration de ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, l'Allemagne, j'ai vu en 2013, avait instauré une loi similaire. Il y a eu un rebelle parmi, on va dire, les grands de la presse allemande, un certain Axel Springer, plus grand patron du groupe de presse, allemand. Et par retour de bâton, et ben, tout simplement, les moteurs de recherche avaient été arrêtés de référencer son groupe de presse et du coup, il avait perdu, je crois, en quelques mois, il a vu son chiffre, ses chiffres d'affaires, ses profits diminuer considérablement. Donc, il avait fait marche arrière. D'où l'intérêt de faire ça conjointement.
Le seul problème, c'est que le système d'Internet et de tout ce qui est web évolue énormément et ils vont encore trouver un moyen pour passer à travers et il va falloir à nouveau être extrêmement... C'est parce qu'on a voté cette loi que c'est gagné. Il va falloir être extrêmement vigilant à l'avance.
D'une part, il y a cette loi, mais d'autre part, il y a les sanctions. Ils ont été sanctionnés deux fois. Une fois 2 milliards il y a un an, en 2017, je crois que c'était juin 2017 de mémoire, et en juillet, un an après, 4 milliards et quelques.
Enfin,
donc,
de fait,
il y a un moment où ils vont commencer à réfléchir.
Certains s'interrogent sur l'application après de cette loi. Mais bon, suite de l'épisode, peut-être à plus tard. Tanguy Marie-Pouliquen, et après, on fait une pause.
Derrière cette question-là, c'est la question de la place croissante de l'intelligence artificielle dans le fonctionnement des sociétés. L'utilisation d'Internet maintenant est invasive dans la vie quotidienne. Par exemple, pour les 25-49 ans, c'est plus de 2h15 par jour. C'est-à-dire que cette invasion-là nous invite à nous positionner en amont de toutes ces questions de paiement, de non-paiement, de droits, etc. Est-ce qu'il faut vraiment pas rentrer dans une certaine sobriété du numérique et éviter que ces concentrations de fonds... Vous savez, les Japonais, à travers le milliardaire Son, auquel se rattachent Apple et l'Arabie Saoudite, ont créé un fonds technologique de recherche en intelligence artificielle de 100 milliards de dollars. Cet été, la Chine a lancé un fonds de recherche en intelligence artificielle de 15 milliards de dollars.
100 milliards de dollars, c'est quand même la moitié du budget de la France. Faut dire,
voilà, donc c'est-à-dire que derrière, il y a des concentrations de capitaux qui font que le plus puissant va l'emporter. Donc la question est renvoyée en amont sur la sobriété numérique. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plonger dans une écranisation de mon existence pour avoir accès à des véritables informations. Donc, un filtrage en amont éthique serait certainement très constructif. Thank you.
yo te conocí, Camba Guagalpa, tú elegiste de mí, Camba Guagalpa, tú elegiste de mí, y Mapa Cracurpi, yo te conocí, y Mapa Cracurpi, yo te conocí.
Le grand débat, donc cette émission, on revient sur l'actualité du mois. Alors là, le mois a été long puisqu'il y a eu l'été, mais on a essayé donc de choisir un certain nombre de sujets autour du plateau. Anne de la Doucette, co-organisatrice donc de la formation Passeur d'Hommes, formation à Toulouse, on va dire en anthropologie chrétienne, pour faire court. Bruno Cyr, ancien président de l'Université Toulousain Capitole. Tanguy Marie Pouliquen, prêtre de la communauté des Béatitudes, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Alors, on a choisi, il faut que j'arrête de dire alors, mais bon, c'est en s'en rendant compte qu'on finit par perdre ses mauvaises habitudes. Pardon, excusez-moi, je me parle à moi-même. Troisième sujet, la rentrée scolaire. Il se trouve que Jean-Michel Blanquer, donc ministre de l'Éducation nationale, est allé, entre autres, faire sa rentrée en Ariège. Il a donné une grande interview au journal La Dépêche. « Nous voulons une école fondée sur le discernement ». L'édito de la Dépêche est le suivant, je citerai juste des passages. De même que Chirac avait dit d'Alain Juppé « il est le meilleur d'entre nous », Jean-Michel Blanquer serait-il le meilleur parmi les ministres? En tout cas, il a une cote de popularité certaine. Même Jacques Lang et Xavier Darcos ont salué son travail. Il a l'air de plaire à gauche comme à droite. Un certain nombre de mesures en cette rentrée, peut-être justement, qui satisfont les uns et les autres. Poursuite du dédoublement des classes dans les quartiers défavorisés. Retour à la semaine de 4 jours qui avait déjà été proposée l'année dernière, mais il continue sur sa lancée. Plus de portables en cours, des tests d'évaluation en CP et CE1 et en seconde, un jour une dictée, début de la réforme du bac et la Marseillaise pour tous. Alors il y a là-dedans des mesures, on va dire, qui plaisent, je fais caricatural, hein, à droite, et puis des mesures qui plaisent à gauche. Est-ce le secret de la, comment dire, de la recette de Jean-Michel Blanquer? Bruno Cyr, court. Allez-y.
Ouais, moi, je trouve qu'effectivement, c'est un ministre qui fait un sans faute. C'est quand même un secteur, l'éducation nationale, c'est le plus gros ministère. Hein. 1 million de salariés dans ce ministère-là. Donc, c'est quand même un mammouth. Et Allègre, en sortant, l'avait dit, ça avait choqué, mais ça reste vrai, qui est extrêmement difficile à faire évoluer. Et je trouve que Blanquer a enchaîné des réformes avec une méthode qui est fondée sur la connaissance en profondeur des dossiers. Je crois que c'est un homme qui connaît ses dossiers, qui travaille ses dossiers et qui sait comment faire évoluer le système de l'intérieur. Et du coup, ben, y a un certain nombre d'avancées qui sont tout à fait remarquables. Alors après, on peut discuter sur telle ou telle chose, est-ce que c'est allé assez loin ou trop loin. Mais globalement, je trouve qu'il va dans le bon sens. Il va dans le bon sens, de mon point de vue, en remettant des tests de connaissances sur un certain nombre de fondamentaux, je crois que c'est la base, parce qu'on se désespère tous, moi qui suis universitaire, de voir des jeunes qui arrivent sans maîtriser l'orthographe, sans maîtriser la syntaxe, sans maîtriser tout un tas de choses. Donc ça, j'espère qu'on est en train d'aller dans le bon sens. Je pense qu'il faut aussi travailler sur les secteurs défavorisés, le dédoublement des classes. C'était un engagement de campagne.
Dédoublement des classes, donc c'est CP1. Alors ouais, c'était en REP+, et maintenant c'est en REP. Ça veut dire réseau d'éducation prioritaire renforcé.
C'est pas pour tout le monde.
C'est pas pour tout le monde. Mais
on passe de 24 à 12.
Je pense que c'est une bonne chose de faire ça dans les endroits les plus difficiles, parce qu'on sait très bien que ce métier est extrêmement compliqué, le métier d'enseignant, dans ces zones défavorisées. Et je crois que si... on met en face des enseignants des classes plus réduites, ils feront un bien meilleur travail, ils se sentiront mieux dans leur peau et on aura peut-être des choses qui commenceront à se redresser là aussi. Bref, moi je trouve que c'est incontestablement un bon ministre et je lui tire mon chapeau.
Anne de la Doucette, félicitations aussi de votre côté.
Eh bien, écoutez, je trouve
qu'il vous satisfait dans...
Il n'est pas un pédagogue, il n'est pas dans le pédagogisme, il a les pieds sur terre, il prend les bonnes mesures, je crois qu'elles sont ni de gauche ni à droite, elles sont des mesures de bon sens. On sent qu'il a, c'est un homme de bon sens, qui connaît son dossier et qui est bon sens. J'ai une nièce qui est professeure en CP, dans le 18e à Paris. Dans sa classe, il y a 18 nationalités. Elle a été seule la première année. Elle ne pouvait pas écrire au tableau en regardant le tableau. Elle était obligée de regarder ses élèves pour pouvoir tout le temps avoir un œil sur eux. Sa classe a été dédoublée. Alors, il n'y a pas eu deux classes. Il y a eu deux enseignantes. Et elle a dit que ça a absolument tout changé. Qu'ils peuvent travailler, que les enfants progressent et qu'à Pâques, ils savaient lire et écrire. Et pourtant, il y a des enfants qui sont défavorisés parce que dans leur famille, ils ne peuvent pas parler le français, les parents ne savent pas écrire et voilà. Donc je crois que c'est vraiment très bonnes nouvelles. Quand les choses sont bien, il faut le dire.
Ah, il faut le dire. Hein. Alors du coup, excusez-moi, je vais me faire plaisir. Philippe Merdieu, qui a été interrogé aussi dans... le journal La Dépêche, voilà, qui je crois souvent présenté en tout cas comme un des grands prêtres du pédagogisme,
lui
peut-être
a fait beaucoup
plus
de mal,
en place,
on peut le dire,
et qui se désolait en partie d'une école inquiète en cette rentrée. Voilà, c'est balancé, mais ça faisait longtemps que j'en rêvais. Allez-y, Tanguy Marie-Poulikin.
Moi, je pense que la construction de notre jeunesse, elle se passe par une réappropriation de la concentration. C'est-à-dire que nos jeunes qui ont un esprit tellement dispersé à cause de ces flux d'informations sur Internet, on en a un petit peu parlé, et la construction du psychisme, et donc de la personne en son intégralité, me semble-t-il, traverse trois étapes, trois strates successives, concentration, attention, intention. Et donc cette mesure de...
C'est-à-dire, vous pouvez juste un tout petit peu
C'est-à-dire que le portable à l'école...
Suppression du portable.
C'est-à-dire que c'est un facteur de dispersion maximum, que ce soit pendant les cours ou dans la cour. C'est-à-dire que se réapproprier la capacité d'être attentif à ce qui est dit par le prof, ce qui est dit et ce que cela veut dire, et que je me l'approprie de manière personnelle au niveau de l'intention qui est la mienne par rapport à qu'est-ce que cela me dit et me rejoint, renvoie le processus éducatif d'un savoir multiforme et dispersant à un projet de construction. Et ce mot discernement me plaît beaucoup parce que c'est l'art d'apprendre aux jeunes le plus tôt possible, à savoir prendre une décision en fonction de leurs désirs les plus personnels. Je pense que la prochaine étape, après d'avoir mis en œuvre cette capacité de discernement, ça sera selon quelles valeurs les jeunes vont se réapproprier ce discernement. Parce qu'une des idées transversales de manière éducative de M. Macron, évoqué pendant la campagne, c'est que chaque jeune se réapproprie son destin. Donc, la formation de base, lire et écrire, et je pense que le savoir professionnalisant, donc tout l'enjeu des formations professionnalisantes courtes que va créer à la rentrée le ministère de l'enseignement supérieur, formation de 1 à 3 ans, et l'enjeu c'est donc de permettre aux jeunes de travailler, et là on voit toute l'influence des philosophies par exemple de Paul Ricoeur et autres, d'avoir une liberté qui se réapproprie son destin et qui par le travail actue la croissance de la personne. On espère que tout ça ça va converger dans des valeurs au service de la personne humaine.
Mais il faut
humaine.
Quand même qu'il y ait le contenu.
Mais oui, bah, c'est les valeurs. C'est oui. les valeurs.
Non, mais le contenu des connaissances et aussi. Oui. Parce ouais. que les connaissances sont quand même un peu atrophiées, non? Je ne sais pas, Bruno, toi qui vois les étudiants arriver.
Ah, mais non, j'aimerais qu'on ne squeeze pas Nicolas Hulot.
D'accord.
Allez-y, non, mais allez-y, vous pouvez répondre.
Je vais vous répondre par une anecdote qui m'a beaucoup amusé en son temps. J'étais avec le directeur général du CNRS, Alain Fuchs, il y a 2 ou 3 ans. Et on examinait, on avait créé une alliance qui s'appelle, qui regroupait un certain nombre d'universités dans les domaines des sciences humaines et sociales, pour organiser la recherche avec le CNRS. Donc c'est Fuchs qui présidait. Il y a un dossier qui arrive sur les sciences de l'éducation. Et Fuchs, qui se mettait rarement en colère, mais de temps en temps quand même, dit « Ah, les sciences de l'éducation, ah ben non, moi présent au CNRS, on ne financera plus ça. Quand on voit l'état dans lequel ils ont mis le système éducatif français, ces gens-là sont complètement disqualifiés, on ne les financera plus. » Eh bien, j'ai applaudi des deux mains, parce que je suis tout à fait de son avis, et je pense que des gens comme Mérieux, dont vous parliez, qui se désespèrent...
Et de deux.
Et de quelques autres que je pourrais citer, qui se désespèrent des réformes de Blanquer, il faudrait bien d'avoir un examen de conscience sur qu'est-ce qu'on a fait du système depuis le milieu des années 80, parce que Mérieux, il traîne là depuis le milieu des années 80, et c'est eux qui ont tout planté. Donc heureusement qu'il y a quelqu'un qui repart...
Ça, il est au pilori, là.
Une paire de claques... à gauche et à droite.
Bien chrétiennement donné.
Hein. De Nicolas Hulot. C'était donc le 28 août dernier. C'était cette fois donc en direct, voilà, sur France Inter, le matin. Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et de la Solidarité, et il tenait à ce deuxième intitulé de la Solidarité, a donc annoncé qu'il démissionnait du gouvernement. C'est une longue interview qui dure, je crois, 20 ou 30 minutes. J'avoue l'avoir regardé au moins une fois ou deux. Je dirais peut-être la première chose, moi, qui m'a marqué, après on pourra parler du contenu, vous me direz, c'est peut-être ma naïveté qui joue, mais c'était étrange comme moment journalistique, parce que on avait l'impression de quelqu'un qui était vraiment authentique, et dans les médias, ça devient rare. Est-ce que ça vous a marqué, Tanguy-Marie Pouliquen? Il y avait quelqu'un qui parlait vrai, de manière authentique, voire avec une certaine humilité.
Moi, je suis assez d'accord avec cette affirmation. Nicolas Hulot, c'est plutôt un lanceur d'alerte. Donc, il prend le style prophétique, c'est-à-dire qu'il déclenche une vérité. C'est vrai qu'au plan écologique, on va dans le mur. Hein, on va dans le mur, et ça va concerner notre génération, les générations futures. Hein. Simplement, maintenant, de rappeler ce que disait le pape en 2015, à la veille du COP21. Chaque année, le problème est de plus en plus grave. Nous sommes à la limite d'un suicide. C'est maintenant ou jamais. Et puis, ce qu'il disait plus tard, Dieu pardonne toujours, les hommes parfois, la nature jamais. Voilà. Donc il faut lire dans les signes des temps, maintenant les signes écologiques, qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Moi, j'ai mon frère qui est directeur général de Suez, donc une grosse boîte internationale, il gère le pôle environnement, et il me dit, en Afrique, ça y est, le problème de l'eau est massif, massif. Et vivant avec des Africains, je leur dis, mais est-ce que le problème du réchauffement climatique chez vous, ça y est, est-ce que les étés sont beaucoup plus chauds, etc. Oui. Eh bien, on est déjà dans le dur, et on va aller de plus en plus. Les conséquences un peu dramatiques, rapidement, ça risque d'être même un réchauffement climatique à l'aune de 2100 de plus 5 degrés. Ouais. Ça va être catastrophique.
D'ici 2050, il y aura potentiellement 1 milliard de migrants climatiques.
Voilà. Voilà.
Et à propos de la Syrie, j'ai lu, excusez-moi, c'est juste pour donner quelques illustrations, qu'on peut expliquer en partie la crise syrienne. J'avoue que c'est la première fois que je l'avais lu, que par des sécheresses successives qui ont chassé les Syriens ruraux vers les villes, et ça a accentué en partie l'instabilité sociale. Et donc favoriser l'éclatement de ce conflit. Voilà. Voilà. C'est peut-être une lecture parmi d'autres. En tout cas, comme j'ai lu, je l'ai dit.
Alors tout à l'heure, on parlait d'utopie. Je lisais dernièrement des agnostiques, les grands agnostiques contemporains d'un point de vue écologique, c'est Pierre Rabhi et Edgar Morin. Voilà. Pierre Rabhi, il dit qu'il faut libérer les utopies réalistes. Nous appartenons à la Terre, c'est une sagesse amérindienne, nous appartenons d'abord à la Terre. Et cette terre, elle fait partie de, elle fait partie de notre histoire complètement inconsciente. Et il nous faut entrer, disait-il, dans une révolution, non pas simplement technique, mais intellectuelle, pour entrer dans une sobriété de vie complètement renouvelée. On le disait tout à l'heure, la consommation énergétique de notre ordinateur sur la base annuelle équivaut à la consommation d'une voiture pour 2500 km de parcours. Donc on sait que le nombre de voitures, le nombre de consommations d'ordinateurs, tout ça, ça va aller crescendo. La classe moyenne chinoise explose, la classe moyenne indienne explose, tout ça. On ne voit aucun signal de ralentissement.
C'était presque par moment, enfin du pape François dans le texte, hein, quand il dit qu'il faut changer de paradigme quelque part et que c'est pour ça qu'il part, Nicolas Hulot, on avait l'impression de lire Laudato Si. J'espère que mon départ provoquera une profonde introspection de notre société. Anne de la Doucette.
Moi je trouve que c'est un homme libre surtout. Ça, c'est ça qui me plaît, c'est qu'il est libre, il n'est pas, tenu par des pouvoirs, par des places, par des... il a de ses convictions. C'est vrai que quand il était en place, ça n'a pas beaucoup avancé, parce qu'il y a eu l'échec de, avec l'accord commercial quand même entre la France et le Canada. Il y a eu Total qui a le droit d'importer 300 000 tonnes de palmes. Il y a l'histoire des chasseurs, qui à ce point, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais d'un autre côté, on est devant une équation qui est insoluble entre le progrès et puis l'écologie, c'est excessivement... Ce sont deux...
Quand les journalistes lui ont posé la question, il a dit « c'est une fausse contradiction ». C'est-à-dire qu'il suffit d'investir massivement dans cette utopie qui peut être en partie un projet économique. En tout cas, c'est ce qu'il répondait aux journalistes de France Inter.
Oui, mais le problème, c'est qu'il y a l'Europe et le problème de Maastricht. C'est qu'ils ne peuvent pas avoir un déficit de plus de 3%. On ne peut pas à la fois augmenter
des dépenses publiques.
Non, mais on peut pas à la fois développer le nucléaire et développer des nouveaux réacteurs et développer à la fois des éoliennes. On n'a pas les financements. Donc, il faut où on dit on prend les financements et on coupe sur d'autres dépenses, mais tel qu'il est le budget aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et les avances, et tout ce qu'on a fait depuis aujourd'hui, toutes les subventions, d'ailleurs, la Cour des comptes a épinglé le gouvernement successif, toutes les subventions qu'on a données pour et les éoliennes et les panneaux solaires ont été du gaspillage total. Il y en a eu quand même pour 4 milliards et on paye chacun de nous paye la facture sur sa note d'électricité.
Bruno Cyr.
Oui, non, moi je n'aborde pas la question comme ça. Nicolas Hulot est quelqu'un de très sympathique. Le problème, c'est que Nicolas Hulot, il est dans un politiquement correct, bourré de certitudes qui n'ont pas toujours les bases scientifiques nécessaires. Donc,
c'est-à-dire, là, il va falloir que vous étayiez vos propos.
Parce qu'il assène tout un tas de vérités de type prophétique. Il nous dit ce que sera le monde, etc. Mais en fait, il n'en sait pas grand-chose.
Bah,
mais
pour vous, on ne va pas droit dans le mur
d'un point de vue écologique. Excusez-moi, juste en général, il cite souvent donc, les chiffres du GIEC. 95% de la communauté scientifique dans le monde serait d'accord autour de ces chiffres. Ouais. Réchauffement climatique à l'horizon 2100, 4,8.
Attendez, je ne conteste pas. Ça,
il ne cite pas d'autres chiffres. Il ne cite pas les chiffres de Nicolas Hulot.
Mais il y a... Il y a beaucoup de controverses. C'est pas aussi clair que ça en a l'air. Hein. Et notamment le GIEC est verrouillé par un certain nombre de partisans de la décroissance, qui sont des théories qui portent aussi beaucoup de germes de destruction en interne. Donc il faut avancer de façon prudente là-dedans. Une des plus grandes professeurs d'Harvard d'écologie a démissionné avec pertes et fracas au début de l'été en disant « on ne peut plus faire de la recherche aujourd'hui, on n'a plus de financement et il est interdit de dire que ce n'est pas de la faute du CO2 ». Or, on a besoin de savoir pourquoi il y a le réchauffement climatique et ce n'est pas du tout aussi clair. Les scientifiques, il y a un consensus chez les scientifiques pour dire que le CO2 n'explique que 40% du problème. Donc je pense que les problèmes sont un peu plus vastes, un peu plus complexe, il faut se méfier des certitudes toutes faites qu'on nous sert là, et il faut, je crois, comme essayer de le faire allègre à une époque qui était un grand chercheur dans ces domaines-là et qui a été tout de suite montré du doigt ostracisé, parce que derrière ça...
On disait que c'était quand même pas sa spécialité, justement, qu'il avait tendance à parler de ce qu'il ne connaissait
pas. Il a créé
pas,
l'Institut de géophysique du globe, c'est sa spécialité, justement, avec Courtillot, le professeur Courtillot, qui était un éminent scientifique, et quand Courtillot a essayé de dire que c'était pas aussi simple que ça, qu'on en avait l'air, et que le réchauffement est une chose, mais que les causes du réchauffement, elles sont un peu plus compliquées que ce qu'il faut, tout le monde lui tombe dessus en disant « Non, on connaît le coupable, c'est les voitures. » Bon, je pense qu'il faut se méfier des explications simplistes, première chose, et si alors, on veut traiter effectivement les problèmes.
60 autres pourcents, à quoi serait-il dû?
Il y a sans doute une bonne partie qui est liée à l'activité solaire sur laquelle nous ne pouvons rien, parce que malheureusement, le globe terrestre a subi des cycles de réchauffement et de refroidissement au cours des millénaires qui sont avérés, et ça, il suffit de faire des carottes glaciaires, etc., on s'en rend compte. Je rappelle qu'il y a eu des périodes de glaciation, l'Europe était concernée, etc., et des périodes de réchauffement. Il y avait en Europe, à l'époque, des hommes préhistoriques, des animaux qu'on ne trouve plus qu'en Afrique aujourd'hui. Et ensuite, ça a été un refroidissement. Donc, tout ça, je pense, est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et moi, je ne partage pas l'idée que... de ne plus avoir confiance en l'homme. Je crois qu'il y a un défaitisme aujourd'hui où on s'imagine... qu'on va dans le mur et qu'au fond, il n'y a pas de solution et que le problème, ce sont les hommes. Eh bien, moi, je dis non, la solution, ce sont les hommes. Je pense que les hommes sont capables de prendre en main leur destin et de sauvegarder la planète s'ils veulent s'en donner les moyens. Donc, il faut une volonté, il faut une confiance, et notamment dans la science. Parce qu'il y a une chose que je tiens à dire et qu'on oublie toujours dans l'équation, c'est que le raisonnement sur la décroissance que nous avons...
Il faut
que
vous fassiez vite parce qu'il reste deux minutes et j'aimerais bien...
C'est un raisonnement de riches. Or, on est avec les deux tiers de l'humanité qui sont en dessous des seuils de pauvreté, qui ont une croissance démographique forte. Il faut quand même faire quelque chose pour les nourrir. Donc la décroissance, c'est bien beau, mais comment on va nourrir 5 milliards d'habitants sur la planète demain qui sont en dessous du seuil de pauvreté?
Pardon,
donc,
mais il faut choisir. Alors on va dire Tanguy Marie Poulikin.
L'enjeu d'une révolution culturelle passera par la société civile. Elle a commencé. Les grandes îles de la planète se sont réunies cet été à San Francisco, pour contrecarrer finalement l'inertie des États pour les énergies renouvelables sans effet de CO2. Ce week-end, au Havre, Ville et Territoire Positif, un week-end où on réfléchit à nouveau sur la capacité des villes à aujourd'hui générer une alternative aux politiques publiques à plus haut niveau. Donc la révolution, elle viendra par la société civile et par notre comportement cohérent personnel.
Voilà, désolé, il faut clore cette émission, mais voilà, c'est bien. On a un climato-sceptique, donc ça promet des débats animés au long de cette émission. Vous continuerez le débat en dehors. Je suis désolé, il faut qu'on rende l'antenne. Merci beaucoup. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.